RFI, 7h30 à Paris, 5h30 en temps universel.
RFI Matin.
Le journal avec Xavier Besson. Bonjour Xavier.
Bonjour Julien, bonjour à tous. Ce n'est pas encore une campagne massive, mais la République démocratique du Congo a lancé hier sa campagne de vaccination contre le Mpox. Priorité au Sud Kivu, la région la plus touchée, et priorité au personnel de santé, ainsi qu'aux personnes les plus fragiles. Reportage dans un instant à Goma, au Nord Kivu, où la campagne a officiellement débuté hier. Dans ce journal également la Tunisie, jour de vote ce dimanche, élection présidentielle tunisienne, scrutin qu'une partie de l'opposition dit verrouillé en faveur du pouvoir et du chef de l'État Kais Saied. Le Burundi, où un agent de l'État civil est en prison depuis le début de la semaine, il lui est reproché d'avoir marié un homme habillé en kimono. Explication dans quelques instants. Et dans une dizaine de minutes, le journal des sports, on parlera cyclisme, fin du Tour du Cameroun hier, et football avec la reprise du championnat national congolais. Un premier pas à Goma avant un second dans la province du Sud Kivu et avant peut-être de se mettre en marche à plus grande échelle. Hier, la République démocratique du Congo a lancé officiellement sa campagne de vaccination contre le Mpox, maladie dont la RDC est en ce moment l'épicentre et qui a déjà tué plus de 900 personnes depuis le début de l'année. À l'heure actuelle, faute d'avoir reçu des millions de doses de vaccins promises notamment par les pays européens, le Japon et les États-Unis, c'est donc uniquement une campagne localisée et ciblée qui a débuté hier à Goma. Reportage de notre correspondant Héritier Baraka.
Je déclare officiellement le début de la riposte vaccinale contre le Mpox en République démocratique du Congo.
C'est le docteur Muboyai Chikaya Romé, directeur des cabinets du ministère de la Santé, qui a lancé officiellement la campagne de vaccination contre Mpox en RDC. Les premiers cibles sont les prestataires de santé, les professionnels des sexes, comme l'explique le docteur Muboyai.
En vue de vacciner toutes les personnes cibles pour cette campagne, des stratégies spécifiques sont développées par nos experts de la vaccination pour atteindre toutes les cibles.
Docteur Janine Mouhavi, médecin chef de zone de santé à Goma, est la première à recevoir la piqûre du vaccin contre Mpox à l'hôpital général. Elle dit avoir pris des vaccins pour se protéger.
En tant qu'une personne de première ligne, je suis toujours en contact avec les malades. D'autres personnes aussi doivent prendre les vaccins. Il n'y a pas vraiment des inconvénients.
Les autorités du Nord Kivu appellent de leur côté la population à s'approprier la riposte pour éviter la propagation de cette épidémie. Prisca Kamala, conseillère du gouverneur militaire du Nord Kivu.
Cette maladie mérite donc une attention particulière de tout un chacun.
Selon l'OMS, la province du Nord Kivu court un grand risque vu sa proximité avec la province du Sud Kivu, épicentre de l'épidémie qui compte plus de 3000 cas, mais aussi les cas des déplacés. Héritier Baraka, Goma, RFI.
Et sur ce sujet, notez que nous recevons ce matin Jean Kaseya, le directeur d'Africa CDC, le centre de santé de l'Union africaine. Entretien écouté dans une quinzaine de minutes et à retrouver sur RFI.fr. Jean Kaseya qui revient d'une part sur les difficultés logistiques auxquelles la campagne congolaise de vaccination doit faire face et il insiste d'autre part sur le fait que le vaccin est sûr et qu'il a déjà été utilisé avec succès dans d'autres pays. Goma par ailleurs où plusieurs dizaines de passagers manquent toujours à l'appel après le naufrage jeudi d'un bateau de passagers sur le lac Kivu, embarcation partie de Minova et qui a chaviré non loin de la capitale du Nord Kivu. Ce matin les autorités font toujours état d'une trentaine de morts et pour la société civile locale. La situation est en fait symptomatique des déplacements rendus compliqués par la guerre que mène en ce moment l'armée congolaise et ses alliés et les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. Voltaire Batumbi Sadiki est un représentant de la société civile du territoire de Masisi.
Depuis que la cité de Sake a été prise par les assauts de M23, la population abandonne tous ses axes. La seule voie qui reste, c'est les bateaux. C'est alors que les bateaux sont surchargés. Tout cela qui prenait la moto, les véhicules, même pour le transport de vivres, tout passe par les lacs. Les voyageurs, les commerçants, mais aussi les vivres, tous les produits des chats passent par les lacs pour atteindre Goma. Et donc, toute la nourriture qui arrive à Goma, c'est à bord des bateaux et des bottes. Surtout les bananes plantées, ça va dans les bateaux, les maniocs et les légumes. Il fallait peut-être augmenter le nombre de bateaux sur ces taxes pour permettre l'évacuation des produits et des personnes. C'est un besoin qui est déjà qui est venu suite à l'occupation par les M23 de ces taxes.
Voltaire Batoumbi Sadiki, représentant de la société civile du territoire du Massissi, joint par Alexandra Branjon, l'Est congolais. Il en a été question hier et avant-hier au sommet de la francophonie à Paris et à Villers-Cotterêts. Le président congolais Félix Tshisekedi n'a pas apprécié que lors du discours d'ouverture, le chef de l'État français parle de défense des souverainetés nationales, mais sans évoquer nommément l'Est congolais. Emmanuel Macron qui a rectifié le tir hier, en reprécisant que Paris appelait bien au retrait du M23 et des troupes rwandaises présentes dans l'est de la RDC. Et Paris demande aussi de procéder au démantèlement des FDLR ainsi que de tous les groupes armés en République démocratique du Congo. La RDC, où les autorités suspendent l'équipe dirigeante de Congo Airways, la compagnie aérienne nationale, le directeur général et son adjointe qui sont suspectés de mauvaise gestion et de non-respect des résolutions du conseil d'administration. Alors que la compagnie fait face à de graves difficultés, et cela depuis maintenant plusieurs mois, nous explique Patient Ligodi à Kinshasa.
Créé en 2014, Congo Airways est aujourd'hui au plus mal. De sa flotte initiale de 4 avions, il ne reste aujourd'hui que 2 appareils, tous 2 cloués au sol en raison des problèmes techniques. La compagnie a bénéficié d'un moratoire accordé par l'Association du transport aérien international IATA pour lui permettre de remettre l'un de ses avions en service. Malgré les annonces répétées de soutien du gouvernement pour tenter de sauver l'entreprise, aucune intervention concrète n'a abouti jusqu'à présent. La dernière initiative en date concerne l'adoption d'une proposition de renouvellement de la flotte de Congo Airways. Lors d'un conseil des ministres en juillet dernier, Jean-Pierre Bemba Gombo, vice-premier ministre et ministre des Transports, a présenté un plan d'action pour relancer la compagnie. Un plan sur 5 ans qui prévoit l'acquisition en location-achat des 3 avions des types Airbus A320. Cependant, la société continue de faire face à des problèmes internes. Dans la décision de suspension, le ministère du portefeuille estime qu'il existe des indices graves de mauvaise gestion. Les revendications répétées de la délégation syndicale et les résultats du dernier audit viennent renforcer ses accusations. En attendant une décision définitive du gouvernement, une équipe de gestion intérimaire a été mise en place, comprenant un chargé de mission et 2 adjoints pour assurer la direction générale. Patient Ligodi, Kinshasa, RFI.
À Kinshasa, où il est 6h37, même heure, à Tunis, la Tunisie qui vote aujourd'hui. Jour d'élection présidentielle, 6 candidatures validées, mais seulement 3 autorisées. Et l'un des candidats en prison, aucune date prévue pour le moment pour la commission électorale pour un éventuel second tour. Voilà où l'on en est ce matin en Tunisie. Ce dimanche d'élection présidentielle, le chef de l'État Kais Saied brigue un second mandat. Une partie de l'opposition tunisienne appelle au boycott et dénonce un scrutin joué d'avance à Tunis pour RFI. Amira Souilem.
C'est un scrutin tout à fait inédit qui se tient en Tunisie. Pour la première fois depuis la révolution qui aboutit au départ de Ben Ali du pouvoir, cette présidentielle se fait dans une ambiance que l'on peut qualifier de morose. Seulement 2 candidats ont été autorisés à se présenter face à Kais Saied. Zouheir Marzewi, un ex-député panarabe, et Ayesh Izemel, industriel emprisonné pour de supposés faux parrainages. Beaucoup ici craignent donc que ce scrutin ne soit qu'une mascarade visant à offrir un plébiscite au président sortant, Kais Saied. Face à cette situation, on a assisté cette semaine au déchirement de l'opposition. Une partie appelant au boycott d'une élection jouée d'avance selon elle, l'autre appelant au contraire à essayer, je cite, « de court-circuiter le système en allant voter massivement ». Tous en tout cas s'accordent sur une chose. Cette campagne hautement verrouillée serait, selon eux, le signe d'une grande fébrilité du pouvoir et donc de sa fragilité. Amira Souilem, Tunis, RFI.
La Tunisie, où les bureaux de vote doivent ouvrir à 8h, heure locale 9h, heure de Paris. Élection à venir aussi au Tchad. L'opposant Succès Masra et son parti Les Transformateurs réclament le report des scrutins qui sont prévus pour leur fin décembre. Scrutin législatif, provincial et communal. C'est l'une des conditions qu'ils posent pour y participer. Les graves inondations qui touchent le pays en ce moment rendent impossible le fait de faire campagne, assurent les transformateurs. Ils souhaitent aussi, entre autres, que soient revues les listes électorales, ainsi que le code et la composition des institutions qui vont gérer les scrutins. Succès Masra qui laisse néanmoins la porte ouverte à une forme de collaboration avec le pouvoir dans le cadre de ce qu'il nomme un consensus bipartisan. Le kimono est-il une tenue appropriée pour un mariage? C'est la question qui divise le Burundi depuis plusieurs jours, sur les réseaux sociaux notamment, où a émergé la photo d'un mariage où le mari était en tenue de karatéka. Mais le débat en ligne a des conséquences bien réelles pour l'agent d'état civil qui a procédé au mariage. Il a été arrêté et il est détenu depuis 6 jours maintenant, sans que l'on sache aujourd'hui précisément ce qui lui est reproché. Précision et explication avec Esdras Ndikoumana.
Sur la photo, un homme en kimono blanc et ceinture noire, gérant d'une salle de fête de son été et passionné par le karaté, debout devant un responsable administratif en train de le marier à sa fiancée dans une robe blanche des plus conventionnelles. La photo va tout de suite susciter des clics et des débats interminables sur la tenue plutôt inhabituelle pour un tel événement. Certains sont pour, d'autres contre. Le chef du bureau chargé des affaires politiques et sociales à la présidence, Jean-Claude Nzako Karegwa, ne va pas cacher sa désapprobation dans un poste où il s'en prend à ceux qui ont accepté qu'une telle cérémonie ait lieu. « Pour moi, ils ont mal agi, tranche-t-il, en se demandant comment les Burundais allaient préserver leur identité culturelle si l'on cautionne des choix vestimentaires aussi inappropriés. » Ces propos vont relancer de plus belle la polémique sur les réseaux sociaux. 2 jours plus tard, Patrick Tshoyitung Ye, qui a marié le couple devenu célèbre malgré lui, est arrêté et emprisonné dans un cachot du commissariat de la police de Cibitoke, où il croupit depuis 6 jours. Une source judiciaire assure que l'ordre de l'arrêter est venu d'en haut. Depuis, la police locale est dans l'embarras et ne l'a pas encore trouvé un motif d'inculpation, précise la source, le code civil burundais étant muet sur la tenue des mariés le jour de leur mariage ou sur l'endroit où celui-ci doit être célébré.
Enfin, à Madagascar, les oiseaux jouent un rôle important dans l'imaginaire collectif et dans la culture malgache. Ils sont au centre de l'exposition « Interpeller le vivant » qui a débuté hier à Antananarive. Reportage de Sarah Teto.
Pour pénétrer dans l'exposition, il faut d'abord traverser un tunnel, signé Verena Conrad, qui propulse le visiteur dans une forêt artificielle. Les feuilles qui tapissent les murs ont été réalisées avec des emballages, les chants des oiseaux créés par ordinateur.
Là, on est dans l'artifice.
Yubi Rabarizone est la curatrice de l'exposition.
Bientôt, est-ce qu'on sera obligé d'être dans des forêts qu'on fabrique?
Suspendues au plafond, des têtes d'oiseaux endémiques de Madagascar peintes sur des canettes écrasées. On les doit à l'artiste plasticien Yanji Ranjamanjous.
Pour moi, les oiseaux représentent la résilience, car ils existent encore aujourd'hui, même si nous avons modifié leur habitat. Nous avons construit beaucoup de maisons. Ils représentent aussi l'adaptation, parce qu'ils s'adaptent à leur environnement changeant, où ils s'éloignent et trouvent d'autres endroits pour survivre. Peut-être que je ne coupe pas directement d'arbres, mais sans doute que le lit dans lequel je dors est fait de bois provenant d'un arbre qui faisait partie d'un écosystème quelque part.
À ces œuvres suspendues répondent les vers de l'écrivain Dzua Ravalusu.
Les oiseaux d'Iange bientôt n'existeront plus, ni ici ni là, nulle part. Ne demeurera que la mélancolie des ailes perdues.
Sarah Teto, Antananarivo, RFI.
À Antananarive, où il est maintenant 8h43, et vous êtes avec Julien Coquelroem pour la suite des RFI Matin.